La suite de cette émission, c'est avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Bonjour professeur Jacques Lecacheux.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'économie à l'université de Pau et Pays de la Dour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur l'antenne de Radio Présence pour nous aider à décrypter un petit peu l'économie. Alors, on a trois sujets à voir avec vous aujourd'hui. Et on commence par cette note. C'est arrivé vendredi 12 septembre comme un mauvais bulletin scolaire. L'agence de notation financière Fitch Ratings a dégradé la note de la France de AA- à A+. Qu'est-ce que c'est que cette note? Qui évalue notre économie? Qu'est-ce que nous dit cette note? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette note, professeur Lecacheux?
Alors, cette note, elle est donnée, donc, comme vous l'avez dit, par une agence qui est une agence américaine qui s'appelle Fitch Ratings. Et en fait, il y a un certain nombre d'agences qui sont spécialisées dans ce genre d'évaluation au niveau mondial, mais les trois principales sont Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui sont toutes les trois des agences américaines. Et en fait, ce qu'ils évaluent, c'est pas notre économie, c'est en fait la capacité du gouvernement français à honorer ses dettes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce qu'on évalue, en fait, c'est le gouvernement français, l'État français en tant qu'emprunteur. Et ces agences, en fait, elles ont pour fonction d'évaluer tous les emprunteurs, pas seulement les États, mais aussi les entreprises. Et elles le font en analysant leur situation financière, leurs perspectives, etc. Et elles résument leur évaluation par une note. Et ça permet à ceux qui achètent cette dette, donc les investisseurs de tous les pays du monde qui achètent des obligations françaises ou de l'État français ou de l'État américain ou d'une grande entreprise quelconque, ça permet aux investisseurs donc d'avoir en une seule note au fond un résumé des perspectives de l'emprunteur.
Donc ça ne va pas aider de potentiels emprunteurs ou de potentiels investisseurs à faire confiance en la France. Ça ne nous aide pas, cette note. Ça nous enfonce un petit peu.
Ben oui, bien sûr, puisque ça prend acte du fait, si vous voulez, que le gouvernement français a beaucoup de mal à contenir l'augmentation de la dette publique et a du mal à faire passer son budget, a du mal à réduire son déficit budgétaire. Et donc, le signal que ça envoie, c'est la situation se dégrade plutôt du point de vue financier.
Donc, il s'agit juste de donner une note à partir d'un état des lieux, mais il ne s'agit pas de donner des pistes pour nous aider.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'agence en question, en fait, elle travaille en fait pour les investisseurs, pas pour le gouvernement français. Elle évalue aussi objectivement que possible. Alors, c'est jamais complètement objectif, et ces agences ont toujours un petit biais, on va dire, idéologique quand même. Mais disons que, en théorie, si vous voulez, c'est envoyer un message à ceux qui détiennent la dette publique française pour dire les perspectives sont un peu moins bonnes qu'avant. Et donc, effectivement, ça peut encourager certains détenteurs de dette publique à la vendre, ou bien ça peut décourager certains des acheteurs potentiels de prêter.
Évidemment.
Voilà. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus une révélation. Généralement, quand l'agence dégrade sa note, c'est que on sait déjà depuis plusieurs mois que la situation est dégradée, etc. Donc c'est pas.
Est-ce que la France est le seul pays à avoir une note aussi catastrophique? Est-ce que cette note est aussi catastrophique que l'on dit?
Non. Non, on a encore une note meilleure ou comparable à celle de beaucoup d'autres pays. L'Espagne, l'Italie, la Grèce ont des notes à peu près similaires à celles de la France. Alors, ce qui est vrai, c'est que bah, il y a des pays qui ont des meilleures notes, évidemment. Hein. Et nous-mêmes, la France, l'État français avait un triple A jusqu'à 2012. Hein. Donc, on a perdu beaucoup de points depuis 2012. Et aujourd'hui, il y a quand même encore 4 ou 5 pays européens qui ont ce qu'on appelle le triple A, c'est-à-dire la meilleure note de la part des agences. Il y a l'Allemagne, bien sûr, mais aussi les Pays-Bas, et enfin, il y en a quelques-uns, quoi.
C'est une note qui est réévaluée chaque année.
Alors, plusieurs fois par an, en fait, hein, je crois que c'est tous les 6 mois, plus ou moins. Hein. Mais je vous dis, chaque agence a son propre rythme et ses propres méthodes d'évaluation.
Est-ce que pour vous, en tant qu'économiste, c'est une note que vous attendez, que vous regardez de près, que vous scrutez?
Alors, en tant qu'économiste, pas tellement, parce que je vous dis, on a les mêmes informations que les agences. En tant qu'économiste, on sait ce qui se passe dans l'économie française, dans le budget de la France, etc. Mais il faut bien voir que beaucoup d'investisseurs, notamment étrangers, mais aussi des petits épargnants, etc., ne suivent pas au jour le jour les évolutions de l'économie française ou du budget français. Et pour eux, bah, ça constitue un signal simple à suivre, si vous voulez. Hein. C'est un peu comme le Nutri-Score sur les aliments, si vous voulez. Hein.
Oui.
Ça résume en une seule lettre toutes sortes d'informations qui sont écrites en petit sur l'étiquette. Mais pour le consommateur, bah c'est simple, ça se voit de loin et il n'y a pas besoin de lire les étiquettes, quoi.
Oui, donc
Bah
en
là, c'est la même
somme,
chose.
ça dit très fort et avec beaucoup de tapage ce que, au fond, tout le monde sait déjà.
Oui, c'est ça.
Allez, on passe au deuxième sujet, professeur Jacques Lecacheux. Après le 10 septembre, l'ensemble des syndicats appellent à une mobilisation massive. Hein, ce jeudi, le 18 septembre, grève, manifestation, blocage, transport, école, services publics, tous sont dans les starting blocks. Alors, on ne sait pas encore vraiment à quoi s'attendre, mais je voudrais vous demander quelles conséquences directes et concrètes ces jours de grève, ces blocages ont dans notre économie. Qu'est-ce que ça va enclencher dans notre économie?
Alors, ben, ça constitue évidemment une perte de production, donc une perte, oui, d'activité économique, hein, puisque non seulement les secteurs qui sont bloqués ne produisent pas ces jours-là, hein, mais en général, ça gêne aussi la production dans d'autres secteurs, bien sûr, hein, puisque si par exemple il y a une grève générale des transports, ben, les salariés peuvent pas ou peuvent difficilement se rendre à leur travail, même ceux qui sont dans les entreprises privées, etc. Et donc ça a des conséquences en termes de baisse de production pour toute l'économie. Alors ça dépend évidemment de l'ampleur du mouvement, bien sûr, hein, mais ça va. Ça, si on se réfère à l'indicateur habituel qui est le PIB, la croissance, etc., ben, ça fait une petite perte de croissance. Alors si c'est juste une journée, évidemment.
Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre, une petite perte de croissance, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire, écoutez, c'est pas très compliqué, hein. On a un peu plus de 300 jours ouvrés par an. Donc, si toute l'économie française est complètement bloquée pendant une journée, ça fait un peu plus que 0,2% de PIB en moins, quoi. Donc, mais il faudrait vraiment que tout soit bloqué. Or, ça n'arrive jamais quand même, hein. Donc, c'est plutôt de l'ordre de. Quand il y a une grève très suivie, et surtout si elle dure plusieurs jours, ça va être 0,2 ou 0,3% du PIB en moins. Mais sinon, c'est quand même pas une perte abyssale, évidemment. Hein, puisqu'en plus, c'est très rare que tout s'arrête quand même. Hein. Je veux dire, les gens continuent à manger, les boulangers continuent à faire du pain, etc., etc. Je veux dire. Mais oui, c'est quand même une perte d'activité, bien sûr.
C'est quelque chose qui vous inquiète, enfin que vous surveillez, entre guillemets, ces jours de blocage, de grève. Vous avez une attention particulière d'économiste?
Bah, oui, on regarde ça, mais en même temps, si vous voulez, c'est pas. Encore une fois, si c'est une journée, c'est pas.
L'inconvénient, c'est qu'on ne
Je
sait
veux dire,
jamais
c'est
combien de
assez.
temps ça va durer, ni quelle
Voilà,
ampleur,
c'est
ça, on ne
ça.
peut pas le prévoir.
Non, exactement. Et je veux dire, des grèves, il y en a dans tous les pays du monde, etc. Donc, et c'est pas non plus, cette année n'est pas exceptionnelle. Je veux dire, il y a eu des grèves au moment des protestations contre la réforme des retraites, etc. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que si c'est juste une journée, ça aura très peu d'effet, évidemment, parce qu'après, on rattrape quand même en partie.
Hier, notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé qu'à partir de janvier 2026, il en sera fini des privilèges accordés aux anciens ministres, chefs de gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans d'autres interviews, hein, qu'on a eues au cours des mois passés, vous avez souvent expliqué que la complexité pour faire face à la dette, justement, c'était précisément de mettre en place des mesures justes et puis justes pour tous. Est-ce que supprimer les indemnités ou les avantages à vie, ça vous semble une mesure juste? On se dit comme ça que ça va quand même pas changer grand-chose, mais peut-être que ça va changer notre perception des choses.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus une mesure symbolique qui envoie un message à tous les citoyens français qui est les anciens ministres ne sont pas à l'abri des efforts qui sont demandés à tout le monde. Et donc, symboliquement, évidemment, c'est une mesure politiquement sans doute bienvenue, mais en même temps, ça ne va pas changer grand-chose parce que c'est quelques millions d'euros par an. Évidemment, ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait que le déficit budgétaire en ce moment, c'est entre 180 et 200 milliards, vous voyez que
Oui.
si on économise 3 ou 4 millions, bah, c'est bien, mais bah, c'est vraiment
On est
l'épaisseur du
encore loin
trait
du
quand même.
compte, oui.
Oui,
Mais
c'est
néanmoins,
vraiment le.
pour vous, c'est quand même une mesure juste.
Alors, juste, oui, c'est-à-dire que ça va être perçu, si vous voulez, je pense, par l'opinion comme quelque chose, une mesure de justice, dans la mesure où on a du mal à comprendre finalement pourquoi les anciens premiers ministres ont des avantages à vie, hein, puisqu'après tout, ils ont aussi des retraites, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison de leur octroyer, par exemple, un chauffeur ou un secrétariat jusqu'à la fin de leur vie. Donc, oui, je pense que ça sera perçu comme une mesure de justice.
Et pour autant, ce ne sont pas forcément non plus eux les grosses richesses
Ah ben non.
qui pourraient vraiment nous aider. Quand on parle de taxer les plus riches, on ne parle pas de ces gens-là.
Ah bah non, bien sûr. Non, non, bien sûr. Quand on parle de taxer, par exemple, la taxe Zucman, qui vise les détenteurs des patrimoines de plus de 100 millions d'euros, 100 millions d'euros, ça représente quand même pas beaucoup de personnes en France hein, qui ont plus que 100 millions d'euros. C'est peut-être 1 500, 1 800 personnes, pas plus. Hein. Donc, et les anciens premiers ministres aucun n'a un patrimoine qui approche même ça, même de loin.
Et c'est vrai, plus riche, pour vous, du coup, c'est juste de les taxer, d'aller chercher la solution de ce côté-là?
Ben
Parce
oui,
qu'on
je
a
pense,
aussi
parce que.
besoin de grosses richesses pour faire tourner l'économie. Ces gens-là,
Bien.
ces grosses richesses
Oui.
font aussi travailler du monde?
Oui, bien sûr, mais si on raisonne comme ça, on pourrait dire aussi que sous l'Ancien Régime, on avait besoin des nobles, c'était eux qui embauchaient les autres et qui les faisaient travailler, hein. Donc, oui, bien sûr, mais en même temps, si vous voulez, il y a un constat qui est maintenant bien établi, qui est que ces très grosses fortunes paient beaucoup moins d'impôts en pourcentage de leur fortune ou de leurs revenus que les classes moyennes. Et donc, l'idée, c'est simplement de rétablir de la justice et de dire, ben, ces très grosses fortunes qui ont la possibilité d'échapper à l'impôt par toutes sortes de montages et parce qu'ils ont des conseillers, etc., eh bien, il faudrait qu'ils payent autant, au moins, autant d'impôts que les autres. Pas plus, mais autant, au moins. Voilà. Et c'est ça me paraît une mesure de justice, effectivement.
Voilà, eh bien nous sommes toujours donc en quête de mesures qui soient justes, efficaces, applicables et appliquées. Voilà,
Voilà.
donc cette économie est donc une affaire à suivre et on aura encore l'occasion de vous entendre sur notre antenne. Merci beaucoup, professeur Jacques Lecacheux. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'économie à l'université Pau Pays de la Dour. Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci.
Et merci
Au revoir.
aussi à vous, Anne-Rose Jankovic.